Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Vous êtes là à votre bureau ou dans votre atelier ou encore au marché à nous suivre. Et sachez que on va recevoir notre salutation les plus cordiales dans cette émission. Et merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Un fait divers d'une rare cruauté a secoué ce lundi 18 août 2025 la commune du Golfe 7 dans le quartier à Pédokoué Balissimé. Un jeune conducteur de tricycle dont l'identité n'a pas encore été révélée a été surpris après avoir décapité un homme et dissimulé la tête dans une retenue d'eau. Information relayée par le site d'information, bien sûr, Togo Scoop. Selon les témoignages recueillis sur place, c'est l'attitude suspecte alors du tricycliste, il allait dire, qui a attiré l'attention des riverains, alerté des habitants, se sont approchés et ont tenté de comprendre ce qui se passait. Interrogé, le mis en cause a d'abord nié toute implication, mais des fouilles dans les environs ont conduit à la découverte d'une tête humaine dissimulée dans une petite retenue d'eau. La scène a plongé les populations dans l'horreur et la stupéfaction. Certains témoins affirment n'avoir jamais vu une telle barbarie, bien sûr, dans leur quartier. Et n'hésitait à le rouer alors de coups. Des attroupements se sont rapidement alors formés, rendant l'atmosphère lourde et tendue. Et alerté, la brigade de gendarmerie de Sabadou est intervenue rapidement. Le suspect a été interpellé et conduit dans les locaux de la gendarmerie pour les besoins de l'enquête. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons en parler. Nous allons aborder d'autres sujets liés à l'actualité également dans cette émission, tels que justement des sujets de l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 22 août 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Osso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nihor, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Le Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes invités, journalistes et aussi analystes politiques dans cette émission, surtout les vendredis. Il a encore répondu à notre invitation, c'est bien Gabin Adjaro. Gabin, bonjour.
Bonjour, cher ami Pascal. Bonjour au plateau, hein, à mes aînés ici. Ils sont tous plus vieux que moi. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent, bien sûr. Et merci à eux d'accompagner cette chaîne Canal FM qui continue par célébrer ses 28 ans d'existence.
Tout à fait. Merci beaucoup, Gabé Adjarou, d'avoir répondu à notre invitation. L'autre qui a répondu aussi à notre invitation, c'est Sami Orosama. Sami, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous écoutent un peu partout à Lomé et dans les localités environnantes. Mes salutations fraternelles à un inconditionnel auditeur de cette émission de grande écoute depuis le quartier Avedji, Gilbert Coiffure, dit Maestra, le professeur de la coiffure au Togo.
Ah bon? Professeur de la coiffure au Togo? J'espère que c'est là où Samir se coiffe souvent.
Ben, de temps en temps.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Samir. Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM, bonjour à tous les... Mais... Mais quoi, débatteur, les invités de ce jour.
Mais, et décidément, tu me le disais hors antenne, mais je voudrais quand même te retourner la question. Je te vois encore fraîche ce matin, frais, j'allais dire. Ce matin, c'est quoi le secret, Jamin?
Ah, le secret, c'est quoi? C'est la prière. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec toi, je ne suis pas aussi frais que ça, hein, avec, mais... avec ma barbe blanche.
Mais, ah, mais c'est moi qui fais le constat, Jamin.
Gabin
ne me dira pas le contraire.
Le plus frais ici, c'est toi.
Ah bon?
Peut-être après vient Gabin qui dit que tout le monde est plus âgé que lui ici. Mais je crois que tu dois être plus jeune que Gabin. Non, mais je pense
que c'est
la bonne humeur. Et puis, vous savez, il ne faut pas trop se stresser. Il faut faut accepter les choses telles qu'elles viennent. Et les mettre dans les mains de Dieu, tout simplement.
C'est ça, c'est très important.
Ouais.
Fimé Tekouagbo, lui n'est pas moins frais quand même. Bonjour Fimé.
Bonjour Pascal Lessou, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu, en écoutant Jamin Pouli. Ça me rappelle un pasteur qui disait qu'un jour, il a passé 4 heures à prier, et quand il est sorti, elle est venue rester face à devant lui. Il y a quelqu'un qui passe, qui l'appelait des boss. Or, la personne ne le connaissait pas. Des boss, parce qu'en réalité, quand vous allez à la rencontre de Dieu, que vous revenez tout rayonnant. Juste appuyer ou soutenir votre thèse selon laquelle Jamin Pouli est bien frais. Bien sûr, il est à ma gauche.
Vous reconnaissez quand même qu'il est frais.
Oui, qu'il est frais, qu'il est frais parce qu'il a dit c'est la prière. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup peut-être prié.
C'est nous.
il est bien frais. Il est bien frais. Juste dire aussi que au Togo, on prie beaucoup. Donc le Togo, c'est un pays bien frais. C'est un pays qui a un avenir certain. Moi, j'en suis persuadé. C'est comme la Bible le dit dans Jérémie 31, verset 17, il y a de l'espérance pour votre avenir. Juste certain qu'il y a de l'espérance pour notre avenir.
Vous aimez bien ce verset. Hein?
Oui, j'adore ce verset parce qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour nous. Que les Togolais ne se disent pas que c'est fini. Non, rien n'est fini. On peut tout refaire. C'est Obama qui disait qu'on a la possibilité de construire le monde que nous voulons aussi, et seulement si nous avons le courage de tout recommencer. Le Togo, c'est un pays de potentiel. Le Togo, c'est un pays d'avenir. Le Togo, c'est un pays qui sert beaucoup. Le Togo, c'est un pays dont les autres nations ont besoin. Donc, il y a de l'espérance. Nous sommes frais ici dans ce studio. Gabin, il est frais avec beaucoup de potentiel. Samy, il est frais. Jamin Pouli, il est bien frais. Vous, frais dans une émission très fraîche. Mais en train de servir des auditeurs qui sont frais, avec un pays qui est frais et qui attire. Donc je voudrais juste dire que Dieu est avec nous, nous avons de l'avenir et nous avons de l'espérance.
Merci beaucoup, je ne sais pas si c'est le pasteur que je dois dire ou un coach en développement personnel, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, évangéliste, vous vous avez dit. Ah, d'accord. Allez, on commence cette émission avec ce sujet. C'est vrai que ça a été de l'horreur, hein, et que les habitants, surtout lors de Apedokwe Balissime, ont assisté le lundi dernier. Et Gabin, c'est vrai, il y a ce jeune homme là qui a eu à commettre alors ce crime, puisque c'est vrai, pour le moment nous pouvons l'appeler un droit justement présumé, puisque on ne sait pas si pour le moment c'est lui qui a été l'auteur de ça, puisque les enquêtes continuent. Mais quand on suit une telle actualité, on écoute cela, mais ça doit justement faire ça fait froid dans le dos, hein.
Oui, parce que je vous assure, moi j'étais sur une plateforme où on balançait les vidéos, ne sachant même pas ce qui était contenu dans la vidéo. J'ai cliqué et je t'assure, j'ai perdu l'appétit parce que j'étais en train de manger. J'ai perdu totalement l'appétit et ça m'a renvoyé très loin en arrière à l'époque de Agbi Viadé, hein, qui a ôté la vie
à Midi Lacoste.
Et ça m'a plongé dans une nuit noire. Et je me suis posé la question de savoir comment peut-on avoir ce niveau de cruauté, hein, trancher la tête de son patron, comme on l'a fait savoir. Bon, c'est son patron qui venait faire les comptes devant lui, 900 000. Et bon, comme le gars, il a vu l'argent, ne sachant pas quoi faire pour pouvoir prendre de l'argent à son patron, il lui a tranché la tête et a pris l'argent. Vous avez vu que dans la vidéo même, l'argent était papillé devant lui et tout ça. Les gens lui demandaient de ramasser l'argent pour lequel il a assassiné le patron. C'est tellement triste que tu dis à ta famille, à ta petite famille, tes enfants, ta femme, que bon, tu vas au boulot, tu reviens, et que celui-là que tu as engagé, c'est lui qui se constitue en bourreau pour toi. C'est que je me suis vraiment, vraiment posé la question de savoir comment. Et j'aimerais saluer quand même hein, le sens de d'humanité des riverains qui étaient venus, mais n'ont pas ôté la vie à ce criminel, à ce supposé criminel, parce que jusque-là, la justice n'a pas encore établi sa responsabilité. Donc, on va dire que c'est un présumé auteur de cet acte très, très, très répréhensible. Moi, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Peut-être que bon, il s'est dopé pour ne pas avoir la conscience dérangée, donc pour faire cela. Parce que quelqu'un qui a tous ses sens poser de tel acte, Pascal, moi je suis vraiment surpris. Et voilà une famille qui se retrouve orpheline de celui-là qui est leur principal pourvoyeur. La rentrée est en train d'arriver. Moi, Balissimé, là où la scène s'est produite, il y a l'église de ma tante qui est là-bas. Moi, je ne savais même pas que c'était précisément dans cette zone-là que la scène s'était déroulée. C'est après que bon, le pasteur qui était là-bas m'en a rien tant soit pour ce qui était arrivé et tout. Le monsieur a eu une petite famille avec des enfants en très jeune âge. Et sincèrement, c'est déplorable. Et je ne peux même pas dire paix à son âme, parce que mourir d'une telle manière, on ne peut pas avoir une âme véritablement en paix.
Et Samir, c'est vrai que ça donne tout un choc, hein, un choc par rapport même à ce drame qui s'est déroulé à Pédokoué Balissimé. Mais sur la vidéo, le jeune homme ou la personne qui est présumée justement lors de ce TAT est apparemment jeune. On pourra se demander, mais qu'est-ce qui peut amener un jeune à commettre un tel crime?
Ben écoutez Pascal, d'abord je pense qu'il faut placer le sujet dans son contexte. Ce qui s'est passé, c'est de l'homicide volontaire.
C'est-à-dire tout à fait, en droit, c'est bien ça.
C'est de l'homicide volontaire et que le code pénal togolais punit sévèrement ce genre d'infraction. Alors, peut-être deux ou trois leçons à tirer. La première leçon, c'est que notre société, nous ne sommes plus en sécurité dans notre propre société. C'est-à-dire que le malheur peut venir de part et d'autre, de ton proche, à celui que tu fais du bien, de ta propre famille, des gens que tu côtoies, parce qu'en fait, ce jeune-là, peut-être qu'il y a quelques jours, quelques années en arrière, il ne présentait aucune défaillance. Il était bien portant, il était sociable, voilà, on l'appréciait dans l'entourage. Et même peut-être que quand vous voulez fouiller derrière, vous vous rendrez compte que le patron, dans certaines circonstances, a vanté ou a présenté ce jeune-là comme quelqu'un qui est docile, qui est soumis, travailleur et tout. Donc, à un moment donné, on se rend compte que ben, le déclic peut venir, quoi. Le déclic qui fait en sorte que on perd son côté humain, son côté humaniste, parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'un humain, ben, normalement constitué, peut avoir le courage de décapiter son semblable. Ça sort de l'imaginaire. C'est-à-dire que ça rentre même dans les histoires mystiques et tout, si on veut rentrer plus loin. Et le deuxième élément ou le deuxième aspect, c'est que la base du bien-être, du développement de chaque enfant, c'est la cellule familiale. Parce que quand on regarde derrière, ben, cet individu-là qui est présumé avoir commis cette infraction-là, mais si vous regardez bien, c'est quelqu'un qui n'a pas connu une véritable stabilité sociale. C'est-à-dire que soit il n'a pas réussi et il n'a pas réussi une éducation à la base dans la cellule familiale, donc il n'a pas eu ses parents à ses côtés pour lui inculquer un certain nombre de valeurs. Ça, c'est une possibilité. Le deuxième élément,
ben, on se dit que bon, peut-être qu'il a grandi dans une cellule familiale, il a grandi en famille, mais qu'à un moment donné, la malchance a fait qu'il a rencontré des gens qui sont de mauvaise moralité, qui ont des comportements qui sont contraires aux mœurs et tout cela, et qui lui ont inculqué la cupidité, le gain facile et le mal. Parce qu'en fait, ben, tout s'apprend, tout s'acquiert véritablement dans la société.
Et il faut puisqu'on, travailler.
On ne vit pas en dehors de la société. Le troisième élément, c'est que quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé, on s'interroge parce qu'avant, on avait l'habitude d'apprendre ces histoires-là dans des villages. Vous voyez, ça se rapproche véritablement. Et quand vous regardez même dans les familles, vous vous rendrez compte que ben, peut-être que dans votre famille, il y a des voleurs que vous ne savez pas, que vous ne savez pas que ces personnes-là sont des voleurs, jusqu'au jour où vous découvrez que cette personne-là est impliquée dans un acte de vol. Mais pour vous, c'est une belle personne, c'est une bonne personne et tout cela. C'est pourquoi ça doit éveiller en nous. Lorsque nous constatons des comportements inhabituels, lorsque nous constatons des mouvements qu'on n'avait pas l'habitude de constater dans nos milieux, qu'on alerte véritablement nos proches, qu'on alerte les institutions compétentes liées à ces situations-là pour que nous soyons débarrassés de ces vices sociaux-là, de ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, et je vais finir par là, quand vous regardez un peu nos prisons, les prisons, vous vous rendrez compte que ceux qui sont en prison ont des familles. Ceux qui sont en prison vivent et ou vivaient dans les mêmes sociétés que nous. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont déraillé, ils ont failli véritablement dans leur vécu quotidien et qui les ont amenés à se retrouver dans ces conditions-là. Donc, premier élément, c'est qu'il y a la crise au niveau de la cellule familiale. Deuxième élément, c'est que dans la société, nous avons une société de plus en plus en crise où la cupidité essaie de gagner, où les gens sont habitués à gagner, veulent gagner rapidement et de façon facile. Et le troisième élément, c'est que nous sommes dans une société où il ne faut plus faire confiance, même à ton plus proche.
D'accord. Ok. Germain, c'est vrai qu'en suivant la vidéo, on aurait cru quand même à un film de fiction. On se demande, mais est-ce que ça s'est passé réellement? Mais c'est une réalité et ça sort de l'ordinaire.
Oui, oui, ça ressemble à un film d'horreur. Et voir ce jeune-là traîner avec la tête de son patron, ça m'a vraiment choqué. Je pense qu'on l'aurait retrouvé au niveau d'un bassin de rétention avec la tête de son patron. Alors là, vous tuez quelqu'un, vous coupez sa tête, vous baladez avec cette tête. C'est vraiment horrible. Et je ne sais pas s'il est sous l'effet d'une drogue ou de je ne sais quel esprit maléfique, mais c'est assez horrible comme image de cette vidéo là aussi. Il faut rappeler que ceux qui l'ont assez ventilé sur les réseaux sociaux aussi n'ont pas fait du bien à la société parce que c'est des images qui choquent et qu'on ne peut pas les diffuser comme ça. Vous avez aussi les parents de cette pauvre victime là qui voit qui perd un être et dont les vidéos circulent avec sa tête contre un bal. Je crois que c'est bon de partager des informations, peut-être des photos si on veut vraiment prouver que la scène a eu lieu. Mais filmer tout ça de bout en bout, partager et aussi largement au point où même les âmes les plus sensibles sont tombées aussi malheureusement sur cette vidéo-là. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à un certain usage des réseaux sociaux. C'est vrai que l'information était importante, c'est vrai qu'il fallait apporter des preuves que ça a eu lieu de cette manière, mais tel que ce jeune-là traînait avec la tête de son patron, c'est vraiment, on croirait que c'est dans un film, on penserait que c'est une mise en scène et que ce n'est pas réel.
Et pourtant, c'est vrai.
Vous voyez que la plupart des choses que nous voyons avant dans les films, tendent à se réaliser. Nous avons le terrorisme au Grand Nord. Avant, c'est dans les films américains, dans certains films qu'on voyait ça. Non.
Et c'était très loin de nous, là.
Les gens venaient dans les films, peut-être, de la guerre au Vietnam et tout ça, tout ça. On regardait avec quelques excès. Mais des gens essaient maintenant de concrétiser tout ça. Et je crois que du cinéma à la réalité, maintenant, il n'y a pas une grande différence. L'horreur est là, elle est réelle, elle choque. Et on se demande comment la société peut se protéger de ce genre d'atrocité. Comment punir ces gens-là qui ont ce courage-là de commettre ces crimes crapuleux, parce qu'il ne s'agit pas d'un crime ordinaire. Il y a des assassinats, il y a des meurtres, parfois non prémédités, parfois de façon involontaire. Mais là, tel que ça s'est déroulé, et vous allez voir la population qui le suivait, les gens étaient furieux. Les gens avaient envie d'en découdre avec lui, c'était irréel. Et dire que ça se passe chez nous, ça se passe à Lomé, dans une banlieue de Lomé, tout près de chez nous, c'est vraiment choquant. Mmh. C'est choquant et on se rend compte que la violence, l'horreur aujourd'hui habite parmi nous. C'est des actes odieux qu'on pensait inimaginables chez nous. Sont en train de se passer tranquillement et on se demande comment on est arrivé à cela. Et comment on est arrivé à ce qu'aujourd'hui un jeune qui arrive, qui est employé par quelqu'un grâce à qui il gagne quand même quelque chose à la fin du mois, et il décide comme ça de trancher la tête de son patron, de tuer l'entreprise, si on peut dire. Parce qu'en le faisant, je ne pense pas qu'il y aura une relève aussi rapide pour reprendre les activités dans cette entreprise. C'est déjà lui-même, s'il a envie de perdre son boulot, on n'en sait rien, mais c'est déjà perdre du boulot à certains. Au-delà même de la perte que ça représente pour la famille de ce chef d'entreprise-là, et on attend de voir quelle suite judiciaire sera donnée à ce crime crapuleux. D'accord. Mais je crois que il faut que l'État, il faut que les parents, il faut que les médias, il faut que tous les acteurs sensibilisent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que la violence devient très banale. Les actes crapuleux deviennent habituels de plus en plus. Et c'est inquiétant. Ça, on voyait dans le film. Après, on avait certains pays, on vous dira les pays les plus violents. On vous parle de Mexique, de Colombie, du Nigeria et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on vit pratiquement les mêmes choses. On vit pratiquement les mêmes choses. Et c'est vraiment choquant.
Justement, c'est vraiment choquant. Oui, c'est vrai que Germain a souligné quelque chose de très important, c'est-à-dire la violence, on la voyait ailleurs. Et aujourd'hui, et même d'ailleurs, c'est à travers les films d'horreur que nous voyons cela. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous vivons avec la violence et avec ces violences, même d'ailleurs, on sait que des fois, il y a certains jeunes ou il y a certains gens qui font ces violences sous l'effet alors des effets d'addition ou des substances psychoactives. Mais finalement, quelles leçons nous devons tirer même d'ailleurs de ce fait qui s'est passé, ce crime crapuleux, si j'ose utiliser les termes alors de Germain Pauly?
Vous savez, moi je vais vous choquer, même si je suis choqué par la situation, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que c'est comme nous parlons d'une situation qui n'a jamais existé. Peut-être on voyait ça ailleurs. Je ne suis pas surpris dans la mesure où vous avez parlé on a parlé de la Bible tout à l'heure. Quand vous lisez toute la Bible, vous m'avez qualifié de coach de développement personnel. Quand vous lisez toute la Bible, rien ne doit vous surprendre en réalité. C'est-à-dire, selon la Bible, il y aura des temps difficiles. Les méchancetés qu'on n'a pas encore vues, il faut que nous attendions à les voir, à les vivre dans les années à venir. Les méchancetés, les plus graves méchancetés, les plus grosses atrocités. Il faut que nous attendions à vivre ce genre de choses à l'avenir. Vous savez, dans les années 50, le monde peut-être était à 4 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 8 milliards. Quand Fonia Singbe est arrivé au pouvoir, la population togolaise était à 5 millions. Peut-être. Aujourd'hui, nous sommes à 8 millions. Ça veut dire qu'en réalité, il y a de nouvelles naissances. Il y a de nouvelles personnes qui sont nées. Peut-être avec des vertus, peut-être avec une bonne moralité, mais aussi peut-être avec des méchancetés. Donc, on doit commencer par se préparer à ce genre de choses. Que peut-être des choses que nous n'avons pas vues en 2005, il faut que nous attendions à les voir en 2025, en 2030, ou dans 10 ans, dans 50 ans. Parce que c'est comme ça le monde. Dans la Bible, il y a des crimes encore plus atroces. C'est ça, au fait. Donc, c'est pour cela que moi, je me dis qu'en réalité, ce genre de choses ne doit pas nous surprendre, mais ça peut, même si ça peut nous choquer. La meilleure des choses, vous avez parlé de leçons, ce qu'on doit retenir comme leçon, c'est que nous devons changer notre système de gouvernance.
Ça veut dire, je parle du sommet de l'État. Nous devons, parce que nous faisons face à de nouvelles naissances, nous faisons face à de nouvelles réalités. Aujourd'hui, on parle de IA. IA n'existait pas en 2005. Même si peut-être ça existait ailleurs, ça n'existait pas. Donc, du moment où nous avons des choses intéressantes, on doit s'attendre à voir aussi des choses négatives. Donc, il faut qu'au niveau du sommet, il faut qu'on change notre système de gouvernance. La manière dont on gouverne sur le plan social, la manière dont on gouverne sur le plan psychologique, la manière dont on gouverne sur le plan sanitaire, et ainsi de suite.
Est-ce que ça ne concerne pas plus l'individu?
Oui, c'est ça, en fait. Vous êtes sur le problème. C'est l'individu. Quand on parle de système de gouvernance, c'est l'individu, au fait. Ça veut dire psychologiquement, il y a des gens qui naissent aussi avec peut-être d'autres réalités psychologiques qu'on n'a jamais vues. Par exemple, Samir Ossoman parlait de sa stabilité et tout ça. Oui, peut-être l'individu, peut-être à un moment donné, il a manqué de quelque chose qui pourrait peut-être l'aider aujourd'hui à être stable. Peut-être dans sa vie, il a eu à rencontrer des gens, peut-être, qui ne l'ont pas aidé et dont le résultat se produit aujourd'hui. Ça veut dire que l'individu doit être au centre de toutes nos préoccupations. Sur le plan psychologique, on dit souvent que, bon, en Afrique, on n'a pas de psychologue, que c'est ailleurs qu'on a des psychologues. Mais là, il faut qu'on mette un accent sur ça. Les enfants qui naissent aujourd'hui, vous savez, on naît aujourd'hui avec des réalités pas possibles, avec un monde beaucoup plus ouvert. Des gens, avec le smartphone, vous avez le monde. Vous êtes dans vos mains. Vous avez le monde dans vos mains. Vous imaginez? C'est-à-dire, l'individu peut aller sur l'IA et peut aller sur n'importe quel site. Vivre des atrocités, regarder les atrocités, chercher à les reproduire. Ça veut dire que le système de gouvernance doit tenir compte de ça. L'individu qui naît aujourd'hui, il naît avec un esprit beaucoup plus ouvert. Alors, ce monsieur, on doit le recadrer. Ou cette dame, on doit la recadrer depuis son bas âge. Sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan éducatif, ça veut dire au niveau de nos curriculums, que ce soit à l'université ou l'école primaire, on doit mettre un accent sur ça. Sur le plan psychologique, nos psychologues, mais il faut qu'on forme beaucoup plus de psychologues. Il faut qu'on se dise peut-être, avec 1000 individus, on doit avoir droit à peut-être 100 psychologues. Donc il faut qu'on commence pas à travailler à ça. Sinon, ce que nous avons vu là, on en verra encore pire. C'est quand un individu peut trancher la gorge ou la tête de quelqu'un et balader avec, ça veut dire que ça ne va pas psychologiquement. Ça ne va pas. Et l'autre chose, on a parlé de prière. Vous savez, vivre et mourir de la façon la plus atroce, c'est extraordinairement difficile. Vous imaginez, Jésus-Christ, il est mort de la façon la plus atroce. C'est difficile parce qu'il avait une histoire. Si aujourd'hui on doit vivre et mourir comme cela, ça veut dire que nous-mêmes, comme Jemais Paul l'a dit, moi je me dis, la leçon, c'est qu'il faut que nous arrivions à prier tous les jours pour ne pas nous soumettre à ces genres d'atrocités à l'avenir.
D'accord. C'est vrai que celui qui aurait posé cette tête est un jeune. Je ne sais pas s'il est un jeune étudiant, mais je n'en pense pas. Mais ce qui est sûr pour ce qui concerne les étudiants, il y a cette chance qui est donnée aujourd'hui alors à ces étudiants, pratiquement plus de 1000 étudiants pour faire du stage justement dans des entreprises. Et ça, c'est les vacances utiles qui est initiées par le gouvernement. Demain, on pourra dire que c'est une bonne chose, une bonne initiative.
C'est une très, très, très bonne initiative. L'immersion en entreprise, c'est ce projet-là qui a été lancé par le gouvernement. C'est une très bonne chose pour permettre quand même à ces enfants-là de lier la théorie à la pratique. Et c'est quand même très bien imaginer que ces enfants-là, les 1000, fassent cela sur peut-être 3 ans, sur toute leur période de formation. Ça va les aider, ça va beaucoup plus les aguerrir pour le métier administratif ou bien le métier entrepreneurial. C'est quelque chose de très bien et c'est un partenariat public-privé qui va permettre quand même à ces élèves, à ces apprenants-là de pouvoir s'imprégner de la vie active. Pour moi, c'est déjà une très bonne chose, c'est un bon début. C'est vrai, d'autres vont dire que non, 1000 étudiants, c'est rien du tout, mais je vais dire que c'est beaucoup. Si on a déjà 1000 employés qui sont très bons, je pense que ça va donner quelque chose. Et c'est un très bon début, vivement que ça puisse aller très loin et que bon, ça puisse aider beaucoup plus de personnes à avoir cette connaissance-là, d'aligner bien, de coupler la théorie à la pratique en même temps. La plupart du temps, on se plaint que bon, même après les études, on a des difficultés à trouver du stage et autres. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, si le gouvernement facilite cela pour les apprenants, et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que ces élèves en stage sont déclarés à la CNSS. Ça veut dire que bon, ce n'est pas un stage qui oblige quand même les entreprises à les prendre. Normalement, selon la loi de la sécurité sociale, c'est quand ces enfants-là sont en stage professionnel qu'on peut les déclarer. Mais le gouvernement a fait les choses bien en les déclarant, malgré que ces enfants vont faire juste un mois de stage en entreprise. C'est déjà une très bonne chose et ils seront aussi intéressés. Donc, on peut dire que c'est moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est à encourager.
D'accord.
Et vivement que, bon, il y ait plus de monde hein, la prochaine fois pour permettre à ce que nous puissions avoir des élèves et des étudiants aguerris à la tâche hein, professionnelle avant même la sortie des universités.
Oui, mais ça veut dire pour une première fois, c'est déjà 1000 étudiants qui seront en contact avec le monde de l'emploi pour savoir exactement comment fonctionne alors ce monde. Mais oui, c'est appréciable, mais la question que beaucoup se posent, c'est de savoir mais qu'est-ce qui serait la suite alors de cette initiative.
Ben écoutez Pascal, moi je vais vous surprendre. Je me rappelle quand j'étais en parcours licence à l'université de Lomé, par exemple quand vous prenez un certain nombre de facultés, un certain nombre d'écoles, il y a déjà le stage qui est établi dans le parcours que vous devez mener. Donc dans la conception des curricula, on fait en sorte que dans votre parcours, que ce soit en parcours licence, en parcours master ou je ne sais quoi, DUT, tout ce que vous voulez, on fait en sorte que vous puissiez vous familiariser avec le monde de l'entreprise. Et donc, c'est sanctionné même par des crédits qu'on doit vous accorder à la fin. Moi, j'ai eu à faire un stage dans mon parcours en licence et en master en droit où j'ai produit un rapport ou j'ai eu une note par rapport à cela. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas une première. L'administration publique, les entreprises privées ont toujours ouvert leurs portes donc aux apprenants. Donc, en principe. Sur le principe à ce que les étudiants se familiarisent ou les apprenants se familiarisent avec le monde de l'emploi, ce n'est pas nouveau. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous avez des apprenants, vous avez des étudiants où leur premier objectif, c'est de gagner de l'argent, même en stage. C'est pas possible. C'est-à-dire, quand vous prenez aujourd'hui les hauts cadres de notre administration, les hauts cadres du secteur privé, c'est des gens qui ont été capables de se sacrifier dès le premier début de leur carrière, après l'obtention de leur diplôme, en acquérant un certain nombre de connaissances. Et après, c'est tout naturellement que l'argent vient. Vous avez des gens, vous prenez aujourd'hui les hauts cadres de l'administration ou les hauts cadres du secteur privé, qui ont fait 3 ans, 4 ans, ils ont accumulé des expériences sans en avoir eu à la fin aucun franc. Ils n'ont pas eu de revenus pour cela. Mais après, quand des opportunités d'emploi sont présentées, aujourd'hui, ce sont eux qui vivent bien, qui ont des revenus extraordinaires, qui sont dans de bonnes conditions. Donc, je pense que, au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir dans les administrations, dans le secteur privé, et que le gouvernement pense à mettre en place un programme spécifique, et quand vous regardez un peu la conception de ce programme, c'est parce qu'il y a un certain nombre de partenariats derrière, il y a un certain nombre d'accompagnement, un certain nombre de financement pour permettre à ce que ce programme-là puisse toucher de façon spécifique, parce que c'est pas tous les secteurs qui sont concernés, de façon spécifique un certain nombre de secteurs, et c'est dans le cadre peut-être d'une projection pour voir quel est l'impact que cela va apporter. Donc moi je suis de ceux qui pensent que quelle que soit l'initiative prise par le gouvernement, par le secteur privé, parce que de plus en plus nous avons un secteur public, un secteur privé dynamique et qui vise à accompagner nos jeunes, nos apprenants dans le monde de l'emploi, c'est à saluer véritablement. Et donc, ce n'est pas nouveau. En tout cas, ceux qui sont réels envers eux-mêmes savent que ce n'est pas nouveau. Nos étudiants dans les universités publiques.
Une telle initiative, c'est du nouveau parce que ça se fait en groupe, ça se fait maintenant un grand nombre alors de personnes.
Mais Pascal, est-ce que vous savez que au niveau de l'ANPE, il y a un programme qu'ils appellent programme aide, qui consiste à mettre en stage un certain nombre d'apprenants dans les entreprises. Ils n'ont pas fait de bruit autour. Donc, il y a énormément de programmes qui sont développés dans le cadre de l'ANPE, dans le cadre de l'ANVT, dans le cadre du FAEJ, qui consiste donc à mettre en situation de stage un certain nombre d'apprenants.
C'est un projet du gouvernement et c'est le gouvernement qui fait du mal
là-dessus. L'ANPE, le FAEJ et l'ANVT, ce ne sont pas des programmes du gouvernement. Et donc, moi, je pense que c'est un plus à ce qui se faisait avant et ce qui se fait. Et ce ne serait pas la dernière fois que le gouvernement initie un certain programme.
D'accord.
Qui vise donc la jeunesse. Donc, tout ce qu'on peut dire, ce qu'on doit saluer cela, mais que les gens ne pensent pas que c'est véritablement que maintenant que l'État se tourne vers les diplômés, les jeunes, et que les jeunes savent également que ce qui compte dans la vie, c'est de se former, d'acquérir certaines connaissances et de mettre de côté l'argent. Parce que le moment où vous allez commencer par avoir de l'argent, ben ça viendra. Et d'autres ont expérimenté cela et ça a marché, Pascal. Je peux vous rassurer.
Ok, merci. Oui, Germain, c'est vrai que cette initiative répond en quelque sorte à cette question que nous avons toujours évoquée, c'est-à-dire l'inadéquation entre l'emploi et la formation. Et oui, nous avons salué alors cette initiative, ou les uns les autres ont salué cette initiative. Mais la question de savoir quelle est la suite qui sera donnée à ces jeunes qui auront terminé ce stage.
Oui, mais il y a des rapports de stage qui devront aussi. Ça sera bouclé par un rapport de stage pour tous ces étudiants-là. Et il y a probablement une suite. Et ce projet est toujours porté par la NPE également. Le gouvernement l'a fait piloter par la NPE et en collaboration avec les grandes entreprises du Togo, le Conseil national du patronat. Et puis également la Chambre de commerce et d'industrie. L'idée, c'est de faire en sorte que tous les étudiants aient une immersion dans le monde des entreprises, profiter de vacances et frotter avec l'univers des entreprises. Donc, il y a eu plus de 2000 candidatures, mais le projet voulait placer seulement 1000 étudiants. Donc, à travers les 6 régions, il y a eu plus de 2000 candidatures qui ont été récoltées. Et on fera en sorte que ceux qui sont en attente aussi puissent profiter de cette opportunité. Ce n'est pas la première opportunité. Parallèlement à cela, même il y a un programme de volontariat aussi qui a été lancé pour recruter des jeunes volontaires pour aller renforcer le secteur de l'éducation. Vous voyez qu'il y a plusieurs initiatives qui convergent vers un seul objectif, c'est l'employabilité des jeunes. Et quand on voit dans le secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, aujourd'hui, il y a une approche qui fait que quand les étudiants apprennent dans ces lycées-là et collèges, après, ils vont travailler chez des patrons, des particuliers. Au niveau d'avoir des mécaniciens, des soudeurs et tout ça, il y a un nombre de patrons qui ont eu des contrats avec l'État. Et qui font en sorte qu'après la formation théorique dans les structures de formation technique et d'enseignement professionnel, ces étudiants-là vont également dans les ateliers, vont dans les structures, chez des patrons en ville, pour lier donc la théorie à la pratique. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est des approches qui vont porter des fruits, ça va peut-être prendre des années avant qu'on ne voit les résultats, mais quand on revient au volontariat, qui a été un grand programme, qui est toujours en vigueur, c'est presque la même chose. On vous permet de travailler, l'État vous paie, et quand vous prenez à la fin de chaque programme, il y a quand même quelques volontaires qui ont la chance d'être recrutés dans les structures où ils ont travaillé. Et d'autres ont ce qu'on appelle une expérience, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez travailler quelque part, on vous dira, mais est-ce que vous avez déjà travaillé ailleurs? Donc, l'État voulait, à travers le volontariat, offrir une expérience professionnelle qui est l'une des conditions pour recruter des jeunes un peu partout. Donc, c'est une initiative à saluer parce qu'elle a mobilisé plusieurs acteurs du secteur privé. Je pense que nous aussi, les médias prochainement, il faut qu'on soit partenaire de ce projet-là pour offrir aussi à des étudiants qui le souhaitent de faire des stages dans les médias également. Donc, je crois que la CCIT, les grandes entreprises, elles, c'est normal, elles ont plus de moyens donc d'insérer ces jeunes-là. Mais je pense que pour des petites et moyennes structures comme les nôtres aussi, et il faudrait accompagner l'État pour que nos jeunes aussi puissent avoir déjà un pied à l'université, un pied dans la vie active.
Je pense que ça se fait même avec la NPE, avec les médias. Et justement, il y a des stagiaires également qui viennent alors de la NPE, qui sont dans nos médias aujourd'hui, et même d'ailleurs de nos structures, enfin des universités également publiques. Il y a justement des étudiants qui sortent alors de ces structures et qui sont dans nos médias aussi pour le moment de stage.
Ouais. Non, je crois que c'est vraiment une très bonne chose parce que l'emploi des jeunes, c'est un problème mondial. Tous les gouvernements sont confrontés à cette problématique parce qu'il y a une jeunesse de plus en plus nombreuse dans le pays. Ça varie entre 50, 60, 70% et plus dans certains pays. Donc après, il faut pouvoir caser tous ces jeunes-là quelque part. Pas forcément leur trouver du boulot dans la fonction publique, puisque la fonction publique, ici comme ailleurs, a des capacités limitées pour recruter, mais il faut qu'il puisse entrer dans le privé, qu'il puisse également aussi être autonome et créer leur propre structure, donc comme dans d'autres pays. Et je crois que si cette approche-là se perpétue, à mon avis, dans 5-10 ans, on va pouvoir récolter le fruit donc, de toutes ces approches-là sur l'employabilité ou la capacité d'insertion des jeunes donc, dans le tissu social et économique.
D'accord. Et Fabien, quelle appréciation vous faites alors de cette initiative?
Non, vous savez, bon, bien sûr, il y a un peu, il y a
Provonat
et tout ça, là, mais cette initiative, elle vient du président du conseil. C'est extraordinaire.
Sans oublier NVT.
Oui, non, moi je voudrais juste parler du président du conseil. L'initiative même, c'est Foy Nassingbé. Et quand ça arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème d'employabilité au Togo. Et le problème,
toutes les initiatives, c'est Foy Nassingbé.
Oui. non, quand ça arrive comme ça.
C'est ça politique.
Oui, c'est ça politique.
Que ce soit le volontariat et tout ce dont on a parlé.
Oui,
NPE, c'est ça politique.
Mais non, je sais. Mais quand ça arrive comme ça, et sur les affiches, sur les réseaux sociaux, on dit du président du conseil, ça veut dire qu'en réalité, le président du conseil s'est rendu compte qu'il y a un problème. Et les rapports lui sont parvenus. Vous savez, aujourd'hui, on a PIA. Il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignent. De la, est-ce que je sais pas si c'est la bonne expression, de la mauvaise qualité des employés. C'est-à-dire les employés, en réalité, les jeunes qu'on recrute ne répondent pas véritablement au marché de l'emploi. Vous avez plein de jeunes, mais qui sont là, qui sortent des universités, mais qui, dans la réalité, ne répondent pas. Et il y a beaucoup d'employeurs qui se débarrassent de ces jeunes depuis 2 mois, 3 mois, ou même avant le contrat, avant la fin du contrat, on se débarrasse de ces jeunes. Il y a aussi peut-être au niveau des PIA, oui. Au niveau de PIA, peut-être certains de ces problèmes, et tout ce que nous disons sur les médias, mais ça, ces rapports ne seraient pas venus sur la table. Et ils se disent, mais il faut que des jeunes soient disponibles. Et aussi, vous savez, il est au Japon. Peut-être qu'il est déjà revenu. Et aussi, peut-être, à l'avenir, il voudrait faire venir plusieurs investisseurs. Peut-être aussi que certains investisseurs se plaignent devant lui en disant que, bien sûr, on vient s'installer dans votre pays, mais on manque de main-d'œuvre. Les jeunes ne répondent pas. Il y a de la qualité qui manque, en réalité. Donc, il me semble que ça, là, c'est pour répondre à un problème. Et la deuxième chose, c'est que peut-être à l'avenir, il voudrait faire venir encore plus d'investisseurs. Mais avant que ces investisseurs n'arrivent, il faut que le terrain déjà soit préparé, soit bien au top, avant que les investisseurs ne viennent s'installer. Vous savez, le Togo n'est pas le seul problème. C'est pas si vous avez suivi Talon. Hein. Vous savez, les gens parlent de Talon, mais si vous avez suivi les échanges qu'il a eu avec les jeunes, le Bénin a presque les mêmes problèmes que le Togo. Talon dit ça, il dit en réalité. Parce que les gens le critiquent par rapport à la loi sur l'embauche. Et la loi qu'il a fait élaborer, la loi ne protège que les employeurs. Et il dit, dans un pays où vous élaborez une loi pour qu'il protège plus les employés, il n'y a même pas un seul investisseur qui puisse atterrir dans votre pays. Et c'est ça au fait qu'il se perd. Et puis il dit, sur ce point-là, il faut miser sur la formation des jeunes pour que ces jeunes-là soient de qualité. Et lorsque ces investisseurs arrivent, alors lorsqu'ils verront des jeunes de qualité, ils sauront comment améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et il dit, au Bénin aussi, on a les mêmes problèmes. Donc je pense que cette initiative, elle est louable à l'avenir que ça se multiplie. Et pour conclure, vous savez, on a aujourd'hui, j'ai des amis docteurs en anglais qui sont des amis qui ont leur doctorat à l'université de Lomé et de Kara, qui chôment, qui n'ont rien. Vous imaginez, ça veut dire quoi? Il faut qu'on revoie notre système de formation. Il faut qu'on l'adapte aux réalités, comme je le dis toujours, réalités du 21e siècle.
C'est-à-dire le système d'éducation.
Le système d'éducation, parce qu'en réalité, vous avez des diplômés, mais qui ne répondent pas sur le marché de l'emploi. Il faut que le président du conseil prenne ça aussi au sérieux, pour qu'à l'avenir, on ait des gens disponibles pour le travail.
D'accord. Oui, Gabin, c'est vrai que parmi ces jeunes ou ces jeunes qui iront travailler à SOSE dans les entreprises et également dans les administrations, et surtout dans les administrations et aussi les entreprises, bien sûr, doivent faire preuve aussi de vigilance, parce que surtout avec les jeunes filles, parce que dans l'administration, il y a également ce phénomène de harcèlement sexuel qui fait preuve, enfin qui circule, et même d'ailleurs, il y a d'aucuns qui disent que le sexe circule alors dans les administrations, et le journal, puisque le journal Canal D revient sur le sujet. Le journal écrivait hier, bien sûr, Togo, harcèlement sexuel dans les administrations, c'est pourri. Et ça, c'est par rapport justement à ce secrétaire général, alors du ministère de l'Action sociale. Et là, vous savez qu'il est aujourd'hui aux arrêts et parce qu'il a été dénoncé et les faits ont été également vérifiés. Et là, ça veut dire qu'il doit y avoir de vigilance auprès de ces jeunes filles, surtout qui sont parmi les étudiants.
Ouais, c'est vrai. Quand on parle de l'harcèlement sexuel, on passe beaucoup plus à la gente masculine qui est beaucoup plus le bourreau et puis la gente féminine qui est la victime. Mais je peux dire que les hommes aussi sont harcelés par les femmes. Il y en a plein de ce genre. Sauf que nous, les hommes, on n'a pas tendance à parler. Donc, même si tu veux parler, on va dire que non, toi, tu as le sexe fort et donc il y a certaines choses que tu ne t'as pas dit. Comment une femme peut t'harceler? Mais la réalité est là. Les femmes patronnes harcèlent les hommes et au même moment les femmes employées même harcèlent les patrons. Donc c'est un phénomène universel, le phénomène Balthazar. Malheureusement pour celui-là, c'est sorti sur la place publique et il a été mis aux arrêts, mais c'est juste la face visible de l'iceberg, parce qu'on a toujours parlé de promotion canapé et même des notes sexuellement transmissibles dans les écoles et même dans les universités. On a eu à voir ce genre de choses. Nous tous nous avons été écoles, nous tous nous avons été des étudiants. Et on sait très bien que, bon, parmi le lot, il y a toujours certaines filles qui sont les préférées des professeurs, certains garçons qui sont les préférés des professeurs femmes. Donc, tout ça, c'est des choses qui existent dans un sens comme l'autre. Maintenant, on ne peut pas savoir tout ce que les gens font dans les bureaux. On ne peut pas le savoir. Il faudrait... Moi, je me dis souvent que, bon, même dans l'administration, nous devons faire en sorte qu'aujourd'hui, les bureaux soient en verre. Vous voyez, tu rentres dans le bureau d'un directeur général, tu vois un lit, un canapé, il y a un rideau qui est derrière là-bas où il peut se coucher. Tout ça, ça doit s'arrêter. Il faut avoir des bureaux en verre, une certaine transparence et que le suivi soit fait, surtout qu'il y ait une certaine clarté et accessibilité, transparence dans ce qui se fait, et surtout que les gens ne ressentent pas une certaine pesanteur à pouvoir dénoncer certaines choses.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de confidentialité dans le boulot?
Bon, question de confidentialité. Par exemple, dans une administration, tu travailles, ben, tu n'as pas besoin. Certes, le bureau est en verre, mais personne ne peut rentrer dans ton bureau comme ça. Mais si tu fais quelque chose de malencontreux dans le bureau, ben, ça peut se faire voir. Et ce n'est pas que pour les questions d'harcèlement sexuel. Même pour les questions de pot de vin, ça va servir. Ça va. Nous sommes ici, on est en train de regarder le technicien de l'autre côté de la baie vitrée. On peut faire des choses comme ça. Et donc, ça peut dissuader les gens à commettre certains actes. Vous voyez, donc moi, ce qui s'est passé, c'est juste déplorable. Ça empêche la productivité dans l'entreprise, parce que certains peuvent avoir des promotions sans même savoir ce qu'ils ont produit comme boulot et tout. Ils ne sont pas productifs, mais à chaque moment, ce sont eux qui reçoivent des promotions. Ce sont les femmes là qu'on promeut à chaque moment. Et même, il y a un proverbe aujourd'hui, on dit: va lui dire que c'est moi qui t'ai envoyé, est mieux que les diplômes aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, il y a certains qui sont à la maison, du haut de leur position, et ils appellent directement, bon, cette fille-là va venir, il faut lui trouver une place. Ou bien, ce garçon-là va venir, il faut lui trouver une place. Tout ça, ça plombe la société, et même notre administration aujourd'hui, je me dis que c'est une administration qui doit beaucoup plus fonctionner sur le résultat, c'est-à-dire tu as des primes compte tenu des résultats que tu produis, et non tu es là, tu t'assois et puis à la fin du mois tu te dis, bon, même si je ne travaille pas, mon salaire est là. Ça, c'est ce que les fonctionnaires disent la plupart du temps: même si je ne travaille pas, mon salaire est là. Les fonctionnaires que moi j'ai toujours félicités, ce sont les enseignants, ce sont les professeurs et autres là, mais ceux qui sont dans les bureaux et autres, ben, la plupart du temps ils disent, bon, même si je ne fais rien, mon salaire m'attend à la fin du mois.
Samir, oui, je le disais qu'il y a des gens quand même qui disent aujourd'hui, ou du moins des analystes, des observateurs qui disent que, mais finalement, le sexe circule alors dans les administrations. Et ça, est-ce que c'est productif justement pour nous?
Ben écoutez, Pascal, je vais vous surprendre. La première des choses qu'il faut féliciter le ministre de la Réforme du Service Public du Travail du Dialogue Social pour le travail formidable qu'il est en train de faire. En réalité, quand vous prenez...
Le ministre Jébé Bahara.
Absolument. Quand vous prenez aujourd'hui l'administration publique et le secteur privé, notamment le monde du travail, vous vous rendrez compte que nous avons formidablement des mesures d'éthique et de déontologie. C'est-à-dire que notre pays ne souffre d'aucun test en matière d'éthique et de déontologie dans le milieu du travail, que ce soit dans l'administration publique ou dans les entreprises privées. Donc, le deuxième élément, c'est que, en fait, j'ai comme l'impression que les gens banalisent le harcèlement sexuel des femmes. Ce qui se passe avec les hommes, c'est une réalité, mais elle a quelle ampleur. Ceux qui souffrent, Pascal, ceux qui souffrent dans les administrations, dans les entreprises privées, même dans la société civile, ce sont les femmes. Et dans la plupart des cas, ce sont des femmes mariées. Le troisième élément, c'est que pourquoi la justice se prononce sur un cas ? Il faut dénoncer. Il faut éduquer les femmes à dénoncer ces supérieurs hiérarchiques qui profitent de leur position pour abuser de ces femmes-là. Mais si vous ne dénoncez pas, si vous n'avez pas le courage de parler, parce que vous vous dites que vous serez mal vu par la société, comment voulez-vous que le changement s'opère ? Donc ça commence par là. Encourager les femmes à libérer la parole, à parler, à dénoncer, à prendre le risque véritablement. Parce qu'en fait, et là je vais en finir avec ce point-là, mais j'entends des gens qui disent que oui, il faut que l'administration soit transparente, il faut mettre les vitres. Mais vous pensez que les abus qu'on fait sur les femmes, là, c'est seulement dans les bureaux ? Quand ils vont en mission dans les villes, dans les hôtels, vous savez ce qui se passe là-bas ? Vous pensez que si on met les baies vitrées, on met tout ça là, on rend les bureaux transparents, ça va résoudre le problème ? Non ! Donc, le plus important, c'est éduquer les femmes à dénoncer, c'est éduquer les femmes à prendre la parole véritablement et à se prononcer dessus. D'accord. Et le deuxième élément que les femmes doivent faire véritablement, c'est d'en parler avec leur conjoint. Parce qu'en fait, pour accuser quelqu'un de harcèlement, pour accuser quelqu'un de viol, il faut réunir les preuves matérielles, les analyses psychologiques, parce que le viol, on peut le constater médicalement et tout. Donc, en réalité, le problème n'est pas une question de gouvernant, le problème n'est pas une question de supérieur hiérarchique, le problème, c'est d'abord nous, en tant que fonctionnaires, en tant qu'agents du secteur privé, comment est-ce que nous nous comportons ? Est-ce que nous connaissons les lois qui nous protègent ? Est-ce que nous savons qu'il y a des tests d'éthique et de déontologie dans nos secteurs du travail ? On doit pouvoir se renseigner et ne pas se lancer dans la fatalité. Parce que si on se dit que oui, on va dénoncer, rien ne va se faire, on va dénoncer, il n'y aura pas de poursuite de tout cela. Donc ce qui s'est passé, ça montre véritablement que l'administration publique n'est pas ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens racontent de n'importe quoi véritablement. L'administration togolaise, elle est épris de respect des tests. Elle est épris de respect donc de la gente féminine. Et d'ailleurs, même quand vous prenez les tests, le statut de la fonction publique ou le code du travail, mais Pascal, allez-y, cherchez vous-même, vous verrez que c'est la femme qui est la mieux protégée. D'accord. Que ce soit dans l'administration publique, d'accord, ou dans le secteur privé. Mmh, ça montre de l'intérêt de nos gouvernants pour la jeune féminine.
Merci Samir. Oui, Germain, quelle appréciation vous faites alors de ce fait, hein, déjà concernant surtout l'harcèlement sexuel là, dans nos administrations?
Ben, le harcèlement sexuel, c'est un peu dans toutes les administrations, hein, qu'elles soient privées ou publiques ou privées. Ce qui donne de l'emploi ou ceux qui sont les hiérarchiques, les supérieurs hiérarchiques, donc des femmes qui travaillent avec eux, hein, le sentiment qu'ils peuvent abuser de ces femmes-là. On le sentiment que ces femmes-là sont à leur merci. Et Samir en parlait, il y a des jeunes filles, il y a des stagiaires et tout ça, mais il y a également des femmes mariées qui subissent parfois des pressions. Mais en même temps aussi, il y a des femmes qui s'inscrivent aussi dans la logique de la promotion canapé, comme on dit, qui se disent, mais si elle sort avec son chef, peut-être qu'elle va gravir les échelons, peut-être qu'elle va avoir l'emploi et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, ce dont il s'agit, moi, je ne pense pas qu'il s'agit d'un harcèlement sexuel, mais il s'agit d'une violence qu'un supérieur a exercée sur une jeune dame. Et l'a obligé donc à accepter, même pas accepter, l'a obligé à des rapports sexuels. Oui. Alors, donc, vous savez, en Afrique, parfois on a tendance à dire, j'avais discuté avec un diplomate togolais qui était aux États-Unis, qui disait que ici on a l'impression que parfois il faut forcer la femme avant qu'elle accepte les avances.
Et que si d'autres vous, disent que si, la femme, que si la femme allez, n'accepte pas la première avance.
Que si vous allez aux États-Unis avec cette idée-là, vous finirez votre vie en prison. Donc, pour dire quoi, les gens ont l'habitude de forcer un peu pour obtenir des choses. Et quand vous forcez, c'est que vous avez, entre guillemets, violé la femme, puisqu'elle n'a pas consenti. Et là, elle vous poursuit.
Donc, on pense que ce n'est pas qu'on force, mais on insiste.
Oui, insister, ça se met là au viol. Parce que quand la femme dit non, vous dites, vous insistez, c'est que vous la forcez. C'est une contrainte, qu'elle soit physique, morale ou qu'elle soit... Déjà, le fait que vous soyez son supérieur, vous avez un pouvoir sur elle, qui fait que c'est déjà de la violence que vous exercez sur elle, parce qu'elle se dit, si elle refuse, il peut y avoir des représailles aussi. Vous avez vu, même dans les écoles, vous avez vu certains enseignants avec des élèves, c'est pareil, hein, vous refusez des avantages des enseignants, mais vous inflige tellement de mauvaises notes qu'à la fin du trimestre, il n'a pas besoin de vous forcer. Donc, c'est des choses qui se passent un peu partout, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et il faut, comme l'a dit Samir, il faut que la femme ait le courage de dénoncer. C'est vrai qu'il y a eu ce phénomène MeToo là, qui est passé en Occident, où on dit « balance ton porc » et beaucoup de femmes se sont révélées, mais de la manière la plus... C'était un peu banal à mon avis, c'était un peu exagéré, mais je crois qu'il faut encourager les femmes à porter plainte pour faire arrêter le phénomène. Il est là dans toute la société, c'est pas seulement dans les administrations. Vous allez dans le privé, mais les femmes viennent pour chercher du boulot, ceux qui recrutent déjà. Ils se donnent un droit de cuissage, comme on dit à l'époque. Ils pensent que pour donner ce boulot-là, il faut que la femme lui offre quelque chose. Parfois, c'est consentant, mais quand on va, il n'y a pas un consentement réel, il y a toujours une contrainte. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans cette administration-là est intéressant, parce qu'il faut que certains responsables comprennent qu'on peut porter plainte.
D'accord.
Et quand les femmes ont le courage de porter plainte, et quand deux ou trois personnes sont sanctionnées de façon exemplaire, je crois que le phénomène va diminuer. Maintenant, on a beau dire que les femmes séduisent les hommes et tout ça, ça c'est un autre débat. Mais ceux qui ont la force pour obliger les autres à un rapport sexuel, c'est généralement les hommes. On a rarement vu des femmes agresser sexuellement les hommes pour les obliger à un rapport sexuel, mais dans le sens inverse. C'est régulier. Je crois que c'est quand même une affaire qu'il faut saluer. Et saluer surtout la promptitude, la réaction du gouvernement qui a pris les sanctions qu'il fallait, qui a écouté l'incriminé, qui a plus ou moins reconnu les faits, même si certains disent qu'il a semblé banaliser la gravité de son acte. Mais voilà qu'aujourd'hui, la sanction est tombée et que ça devrait servir d'exemple.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup.
Y compris à nous-mêmes dans le privé.
Oui, justement, tu l'as si bien dit. Oui, Firmin, c'est vrai que les uns et les autres disent qu'il faut que la femme dénonce, il faut que la femme porte plainte, mais au même moment, il faudrait quand même que cette dénonciation soit écoutée et que des actes soient pris ou des décisions soient prises pour, en quelque sorte, terminer ou finir avec cet acte.
Non, le problème, c'est au niveau de la femme. Vous m'excusez. Il y a bien pour régler le problème là facilement, aussi facilement.
Comment
si
ça?
Si vous travaillez quelque part et qu'on vous harcèle, la meilleure des choses, si vous ne pouvez pas dénoncer, vous démissionnez.
Est-ce que c'est aussi si facile?
Alors, si vous ne pouvez pas démissionner, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous savez que si vous dénoncez, vous portez plainte, ça ne va aboutir à rien. Alors, la meilleure des choses, si vous protégez, si vous-même, vous vous aimez, vous savez que votre corps est sacré, vous êtes une femme mariée, par exemple, vous vous respectez, et que votre honneur vaut plus que l'argent que vous gagnez, et que vous tenez tellement à votre famille, vous tenez tellement à votre mariage, vous tenez tellement à vos enfants, vous tenez tellement à votre honneur, vous tenez tellement à votre dignité, vous tenez tellement à votre respect, vous démissionnez. C'est simple. C'est très simple. C'est-à-dire, vous ne voulez pas accuser un patron parce que l'homme, il est vicieux. Vous savez, on le dit comme cela, mais au départ, les femmes ne sont pas consentantes. Mais vous savez ce que Eve a dit? Le serpent m'a séduite. Vous imaginez? Ça veut dire, avec le départ, c'était difficile. C'était difficile pour le serpent de séduire Eve. Mais avec le temps, le serpent a réussi à la séduire. Au départ, peut-être les femmes ne sont pas consentantes, mais avec le temps, le serpent les séduit. Donc vous imaginez, donc on va argumenter, on va chercher des argumentaires pour dire oui, Plafma était consentant, peut-être au départ elle a été consentante, après elle n'en voulait plus, tout ça. Mais la meilleure des choses, c'est que quand vous faites des avances qui ne vous inspire pas et que vous tenez à vous-même et à votre foyer, vous démissionnez. Et puis c'est fini, on ne va plus jamais entendre parler de vous. Sinon, harcèlement, il y en aura. Vous connaissez Dominique Strauss-Kahn avec la fille Sadio Diallo. Non, je vais trop loin même. Vous connaissez Potiphar, Joseph avec la femme de Potiphar. Vous imaginez, c'est la femme qui l'a dérangé, qui l'a donné. Après, Joseph a dit non. Au péril de sa vie. Vous imaginez, il a sacrifié sa vie. Vous imaginez? Sinon, harcèlement, il y en aura. Vous connaissez, il y a une histoire de Jacques Chirac. 5 minutes, 12 compris. Jacques Chirac, ce que les gens ne savent pas, mais c'est un vrai dragueur. Il voyageait avec ses secrétaires. Il voyageait avec ses ministres. Et dans l'avion, beaucoup de choses qui se passaient à l'époque. C'est à sa mort que les secrétaires, les députés, les ministres, certains ministres ont révélé toute cette dérive sexuelle. Vous imaginez, vous connaissez 2060. Quand 2060, Sarkozy l'a nommé en 2008, comme ça, avant d'aller au FMI, Sarkozy lui a dit attention aux femmes. Et quand 2060 a débarqué aux États-Unis, il s'amusait régulièrement avec ses secrétaires. Il te tapote les fesses. Et il y avait des secrétaires qui ne le connaissaient pas. Mais celles qui étaient consentantes, mais elles se laissaient aller. La meilleure des choses, pour conclure, si vous, femmes, vous respectez, vous tenez à votre foyer, vous aimez votre mari, peu importe le salaire qu'on vous paye, vous démissionnez, puis c'est fini, on ne va plus entendre parler de
harcèlement. D'accord, je ne sais pas si c'est aussi si facile et firmé. Merci à vous, chers confrères et aussi invités à ce débat. Et nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisqu'il est midi. Et nous allons leur donner la parole sur nos deux numéros, 90 86 35 35, 91 36 315, et aussi sur notre numéro WhatsApp, 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros, bien sûr, sur lesquels vous pouvez réagir. Nous appeler, enfin nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, Pascal, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oh, je vais bien par la grâce de Dieu. Hein.
C'est Évangéliste Senghor.
Oui, c'est Evangeliste Senghor.
D'accord, allez-y.
Bon, merci pour le plateau. Mais, monsieur Filmet, vraiment, je vous apprécie vraiment aujourd'hui. Vous avez bien su parler de comment une femme, quand même, doit respecter son mariage. C'est vrai. Et la réalité, c'est vrai. Mais vous savez, je n'aime pas tout le monde. C'est la pauvreté qui amène tout ça là. C'est la pauvreté. Nous sommes dans un pays où, c'est vrai, c'était que elle a fait tout passer pour rentrer dans ce service. Maintenant, le directeur ou le ministre là, qui demande qu'il récupère à une avance et elle a peur de faire son boulot. Qu'est-ce qu'elle va manger avec son mari? Peut-être le mari n'a pas d'emploi. Elle a peur, elle est obligée de se donner. Mais normalement, avec la crainte de Dieu, elle ne doit pas quand même se livrer. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas la punité. On ne punit même pas les gens. Vous comprenez? Nous sommes dans un pays, monsieur Firmin, on ne punit pas. Les gens sont là, nous sommes aujourd'hui, les gens ont ramassé des milliards, mais ils sont à l'aise. Comment est-ce que vous voulez que ça aille? Vraiment, je m'arrête ici.
Merci.
Vous bénisse beaucoup.
Merci beaucoup, Evangeliste Senghor, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Niamavo.
Monsieur Niamavo.
D'accord, allez-y.
Oui, les coupures de tête. On était petit, on entendait le nom des Agata Kofi. Après, c'est le frère Midi Lacoste. Aujourd'hui, c'est ce jeune-là. Mais il n'y a pas longtemps, la mutilation des sexes des jeunes filles. Ah ouais, nous savons que l'affaire-là est pendante à la justice jusqu'alors. Mais qu'est-ce que nous voulons juste? Des sacrifices? Bien, ça n'engage que ceux à qui cela intéresse. Sinon, ça n'intéresse pas les Togolais. Bon, concernant les femmes, entre-temps, c'était à Yota, une autorité. Entre-temps aussi, c'était un député à l'hémicycle qui a couché avec une mineure. L'affaire l'a fait comme ça, je ne vais pas citer de nom. Aujourd'hui, c'est ce monsieur, vous l'avez dit, c'est le dessus de l'iceberg. Et tout ça, là, c'est conditionné à la pauvreté, comme mon prédécesseur là, vient de le dire. Les jeunes filles ne savent plus quoi faire. Quand vous allez même dans des écoles, les parents viennent se plaindre, ils veulent insulter leurs filles. Elles ont le culot de dire que papa, nous sommes comme toi, nous sommes garants. Donc, on pousse même les enfants à sortir parce qu'il n'y a rien même à la maison. Est-ce que vous voyez? C'est la pauvreté. C'est sur les antennes, mais c'est la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Même le papa, qui est l'autre parent qui voulait accuser sa maman d'avoir laissé la fille faire ça. Et dit, la dernière fois, quand tu t'es venu, la réalité t'a donné pour les déplacements, là, tu pensais qu'il y a amené ça, c'est ta fille. Est-ce que vous voyez? C'est la pauvreté. Vous avez parlé de la RNP, tout ça là. Tu connais un jeune aujourd'hui qui est à Ouaga, professeur au lycée français. Il dit qu'il avait soumis ses projets quand il était à Sokodi. Mais il n'a aucune réponse. Il a refait le projet, zéro. Tout simplement, il voulait faire l'engrais organique à partir du compost, de façon rapide, et former les paysans à en faire usage. Que l'engrais chimique, vraiment, ça nuit beaucoup à l'organisme. Mais peut-être ils ont pensé que s'ils le font, leur marché d'engrais va tomber. Ils n'ont pas appelé ce jeune. Donc, ceux qui n'arrangent pas, on ne les appelle pas. Donc, les jeunes veulent travailler, mais on ne les appelle pas. D'accord. Pourquoi déposer le dossier? Ça n'a rien donné.
D'accord.
Peut-être ceux qui veulent se pavaner, ils vont aller. Bonne émission.
Merci beaucoup, M. Nyamavo. Oui. Bonjour, Pascal. Les femmes doivent cesser de séduire par leur habillement que d'autres femmes prouvent leur fidélité en dénonçant la situation à leur mari. Ceux-ci peuvent facilement porter plainte. Merci. C'est Gabriel qui nous écrit 90 86 35 35 91 36 sur 315. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
Allez-y.
Bon, Filmer parle comme s'il n'est pas tout vrai. Les conditions dans lesquelles ces femmes trouvent même le travail. Conditionnées à ces rapports sexuels. Ils demandent à ce que les femmes démissionnent. Elles ne vont jamais dénoncer. Vous dénoncez, vous perdez votre boulot. Et voyez la suite. C'est des conditions dans lesquelles nous vivons Togo. Qui pousse ces femmes à se taire. C'est l'impunité qui pousse ces hommes aussi à agir de cette façon envers les femmes mariées. C'est déplorable. C'est déplorable. Ça se passe dans les administrations. Il faut punir ceux qui font ça. Et ça va apprendre aux autres. Mais quand on ne punit pas, c'est la voie libre. Les femmes là ne vont jamais démissionner. Dénoncer. Parce que quand vous dénoncez, vous perdez votre boulot. Et vous voyez la suite. Merci.
Merci beaucoup, Sylvain, pour votre intervention. Allô? 90
86 35 35.
Allô? Bonjour, comment vous allez?
Bonjour.
Bonjour, je vous écoute. Comment vous allez?
Oui.
Allô?
Oui, Waris, depuis Azamou.
Oui, Waris, allez-y.
Ce n'est pas le retour. Je salue tout le plateau. Bon, concernant l'harcèlement sexuel des femmes dans les services, dans les établissements scolaires et tout, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il faut bien regarder les choses. Pourquoi je dis ça? Et d'abord, une femme, et surtout mariée, bon, disons une femme qui travaille quelque part dans un service, il faut d'abord savoir comment est-ce qu'elle a pu gagner ce travail. Et comment est-ce qu'elle a gagné ce travail avant d'être embauchée. Et je veux dire par là totalement que une femme qui a été appelée pour une fois, pour deuxième fois, pour troisième fois, et c'est peut-être la quatrième ou la cinquième fois qu'elle dit non, selon moi, ne doit pas être considéré comme une victime. Je ne sais pas si vous me suivez. Il ne doit pas être considéré comme une victime. Sinon, c'est terminé là. Là, si bien dire que vous pouvez dénoncer. Si vous ne les dénoncez pas, comment est-ce qu'on peut régler ce phénomène? Donc, vous ne dénoncez pas pour la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, c'est maintenant que vous venez dénoncer, alors que vous avez eu à faire et pour vous.
D'accord, merci. Oui, merci Waris pour votre intervention. Salut, chers journalistes. Je suggère que le PC, le PR et le PA organisent ensemble une rencontre avec la jeunesse de 18 à 45 ans et que Dieu fasse grâce au Togo. C'est Docteur Emmanuel Don Stéphane Colo qui nous a écrit 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gado.
Je suis d'accord avec Monsieur Firmin. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec M. Pascal. Vous dites que ce n'est pas facile de démissionner. Donc, ce que moi je vous propose, vous allez dire à votre femme à la maison si ce cas se présente, elle n'a qu'à livrer la marchandise. Merci, bonne journée.
Décidément, il semble que on ne se comprend pas. 90-86-35-35. Allô?
Bonjour.
Bonjour, Basile. J'espère que vous allez bien.
Ah, tout bonnement.
D'accord, allez-y.
Bon, mais une femme dans un service public, je pense que si la République est bien régulée, elle n'a pas besoin d'être harcelée. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que nous, notre pays même, c'est comme ça que ça y est. Donc, je ne sais pas comment ils vont régler ça ou pas. Quelqu'un l'a dit, ce n'est pas les hommes seulement qui en sont victimes, les femmes seulement qui en sont victimes. C'est des deux côtés. On a vu des femmes replacées avec la position canapé là. Donc, moi, je ne vois pas qui veut se plaindre pour ça ou quoi que ça. Mais ce que moi, je veux dire, il s'est sur des filles quand je suis arrivé et je vous ai écouté, celui qui parlait, ce n'est pas la voix de Firmin ni la voix de Germain. Donc, ça doit être la troisième personne. C'est comme un porte-parole du gouvernement qui disait, le gouvernement a mis quoi en place, il a mis quoi en place, il a mis quoi en place, il a mis quoi en place. Bah, franchement, moi, je ne sais pas. Si vous avez invité un porte-parole du gouvernement, je ne sais pas. Ah, c'est une question. Hein.
Basile, allô, Basile? Alors, il est parti. Ce qui est sûr, chacun est libre de faire son analyse ici sur le plateau du Club de la Presse. Allô?
Canal FM, bonjour.
Bonjour, Cédi, comment vous allez?
Le message de l'amour. Je me porte très bien comme un ange au ciel. Je salue tout le plateau.
D'accord, allez-y.
Moi, je pense qu'il faut des sanctions pour les auteurs de harcèlement sexuel. Un soutien et des ressources pour les victimes. Il est important de créer un environnement de travail sûr. Respectueux pour tous les employés et de prendre des mesures pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel. Surtout, il faut que les hommes, tous les hommes, fassent le test de paternité. Merci et bonne journée.
Merci Océni pour votre intervention 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, Mauto.
Ah, Mauto, allez-y.
Oui, bonjour le plateau.
Bonjour.
Vous savez, pour l'harcèlement sexuel, que les femmes suivent dans les services là. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses, quoi. Parce qu'il y a certaines femmes aussi, lorsqu'ils arrivent dans les services, ils emboutent les hommes. Hein. Vous devez savoir, il y a quelque chose qu'on appelle kilo. Lorsque les femmes passent sur leur visage, si tu n'es pas fort, oh, tu es emporté. Moi, je côtoie beaucoup les femmes. Moi, je raconte. Hein, parce qu'il faut préférer les hommes aussi.
J'espère que toi, tu es fort.
Bien sûr.
D'accord. Et tu n'es souvent pas emporté.
Non.
D'accord.
Donc, moi, c'était absolument dans le service, quoi. Merci.
Merci.
Il faut interdire cet habillement dans les services d'État, quoi.
D'accord.
Merci, bonne émission.
Merci, monsieur Manco, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Allô?
Allô, bonjour. Allô?
Bonjour, bonjour.
Oui, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit, s'il vous plaît, diminuez son
bruit. Oui, bonjour.
Oui, votre nom c'est.
Comment vous allez?
Votre nom c'est.
C'est Jacques.
Jacques, vous nous appelez de quel quartier?
D'Abrapédo.
Allez-y.
Non, je voulais toujours vous dire que tout ce qu'on dit là, on dit il n'y a pas l'emploi, l'emploi c'est manque la pauvreté là. Mais si la femme est consciente, elle ne peut pas se libérer à tout ça là. Vous voyez, non? Donc il faudrait que la femme même soit consciente que non, moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, et puis c'est fini. Est-ce que moi j'ai à vous dire?
D'accord. Merci Jacques. 90, 86, 37, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Bonjour Madame Messi.
T'as failli ne pas me prendre avant la fin de l'émission.
Non, et ce qui est sûr, il reste encore. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier.
C'est ça.
Allez-y.
La dépravation des meurtres, suicide, meurtre, parricide, assassinat, tout ça là. Le vol, le tournement, tout ça. Tout ça là, ça vient dans la non-appellance. Hein, la non-appellance sur des décennies où tout est dépravé dans le pays, quoi. Les gouvernants aussi en sont les initiateurs. Et bon, et maintenant, bon, pour remettre tout ça en ordre, il faut alterner. Il n'y a que ça à faire. Je vais demander à Firmin, à vous tous là-bas, est-ce que l'Union européenne existe encore au Togo là? Parce qu'on ne l'entend plus là. Elle nous promet des réformes démocratiques et d'alternance tous les 5 ans. Avant de disparaître avec Berlingo, je crois. Il y avait Berlingo qui m'a marqué. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce que ça existe? Cette institution existe encore au Togo? Les ambassades sont là, et elles se perdent, elles les servent, on nous piétine, on fait ce qu'on veut avec la République et les habitants. Et puis, ma dernière question à affirmer. Vous faites à combien d'enfants? Je te pose cette question tout le temps que je t'ai.
Merci beaucoup,
combien
Madame
d'enfants qui ne fatiguent pas la Côte d'Ivoire comme au Togo.
Merci Madame Messi. Nous avons quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô?
Oui, bonjour grand frère.
Bonjour Benoît, comment vous allez?
Je vais bien chez vous.
Non, ça va aussi, pas la grâce. Allez-y.
Merci. On dit que tout, si les choses arrivent au niveau du chef de l'État ou bien le chef du conseil, c'est une bonne chose quand les directives viennent directement du chef du conseil, du président du conseil, c'est une bonne chose. À quoi ça sert les ministres et les autres? Il faut décentraliser le système. Il faut que chacun assume sa responsabilité, ça donne sa compétence. Au Bénin, chacun fait sa part. On ne dit pas sous la direction du président de l'Afrique, comme si un païen qui parle de la puissance de Jésus. Non. Au Togo, on dit, c'est un journaliste qui dit des fois que le président fait 20 ans pour expérience. Mais écoutez, nous sommes 9 millions. Le côté présentiel du conseil du comité et du président du conseil n'est pas pour une seule personne. Je m'excuse. Il faut que on s'asseye pour repenser l'État, la société. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup, Benoît, pour votre intervention. Et là, c'est vous, le dernier auditeur, pour le compte à l'heure de cette émission. Chers confrères, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Mais je voudrais, bien sûr, quand même que vous prononciez sur de différents sujets évoqués par des journaux parus aujourd'hui pour mettre fin fin à l'émission de ce jour, Gabin. Oui, il y a le journal Canal, le Canard indépendant qui revient sur la sortie de Madame Niakadé, bien sûr, Madame Niakadé, l'ancienne ministre alors des armées, et le journal écrit leadership de l'opposition togolaise. Madame Niakadé handicapée par son passé, c'est une question que le journal se pose, et le journal continue, des opposants redoutent une opération de lettine politique. Qu'est-ce que vous pensez alors de cette sortie de Madame Niakadé?
Bon, dans les normes, ça ne devait pas poser de problème, hein, mais c'est par rapport à la personne qu'est Madame Magali Niakadé, hein, que ça fait assez tollé comme ça. Dans les normes, bon, Madame Magali Niakadé, elle a des liens de familiarité avec la famille Niasingbé. Elle-même, elle était ministre des armées sur peut-être 2 ou 3 ans. Bon, c'est la raison pour laquelle sa sortie crée assez de remue-ménage. Sinon, ça a toujours été ainsi. Au Sénégal, Macky Sall, il avait gouverné avec Abdoulaye Wade, mais par après, il s'était retourné contre lui avant de devenir président de la République. Au Burkina Faso, Romain Christian Kabore était ministre de Blaise Compaoré. Ben, ce sont des choses qui arrivent comme ça. Bon, si Mme Magali Niakadé sort aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas du tout anormal, parce que c'est une citoyenne togolaise, et si elle constate qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien dans la République, c'est tout à fait normal qu'elle sorte et puis en parle. Elle a le droit, en tant que citoyenne togolaise, peu importe son appartenance familiale ou même biologique, moi, ça ne me pose aucun problème. Le plus important est que ce qu'elle a dit soit vérifié, que bon, peut-être nous sommes sur un terrain politique, hein, et si une politique fait des sorties, c'est forcément avec des objectifs et des desseins politiques.
D'accord. Samir, vous allez vous prononcer sur ce retard observé dans la formation du gouvernement. Il y a le journal Liberté, hein, qui pose également une question ce matin. Le journal écrit: pourquoi le président du Conseil peine-t-il autant à former un nouveau gouvernement?
Mais écoutez, Pascal, vous m'avez déjà entendu me prononcer sur la question. Fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas d'obligation juridique qui oblige donc le président du Conseil à former le gouvernement dans 5 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 5 mois et tout cela. Mais au-delà, je pense que pour des questions d'efficacité gouvernementale, c'est normal que beaucoup de nos concitoyens s'interrogent sur la formation du premier gouvernement de la Ve République. Parce qu'en fait, là, ce n'est pas une continuité du régime politique précédent. Là, nous changeons carrément de régime politique. Et donc, les gens sont curieux de voir donc le premier gouvernement. Parce que, chose inédite, c'est le président du Conseil directement qui va former le gouvernement. Il ne va pas nommer le premier ministre qui va former donc le gouvernement. C'est lui-même directement qui va choisir donc ses futurs collaborateurs. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que il est important qu'on aille très vite, parce que le gouvernement même a reconnu qu'il y a des défis de préoccupation sociale des populations. Et moi, je pense que plus vite on y va, plus vite ça permettra aux différentes institutions de fonctionner, parce que vous savez que le Conseil des ministres, c'est l'organe qui permet de prendre un certain nombre de décisions. Et le Conseil des ministres lie également l'Assemblée nationale, qui adopte donc les lois. Donc il faut des projets de loi. Et vous savez que toutes les actions gouvernementales sont conditionnées par la prise d'un certain nombre d'actes administratifs et juridiques. D'accord. Y compris donc les projets
merci,
de loi.
Merci Samir. Germain, je voudrais que vous prononciez sur ce titre que vous-même vous avez écrit. C'est concernant TICAD 9, c'est-à-dire la 9e édition alors de ce forum. Vous écrivez: Efon Niasingbe et Shigeru Ishiba réaffirment la solidité des relations entre le Togo et le Japon. Il y a des journaux qui sont revenus également là-dessus, hein, le journal Togo Matin qui écrit Togo, Japon, TICAD 9 unis par des accords rapprochés par des partenariats, Fong Niasingbe attisant d'une alliance stratégique. Et également le journal L'Union également revient sur le sujet. Le journal L'Union écrit: TICAD 9e session coopération Japon-Togo, Fort demande une co-création des chaînes de valeur industrielle.
Oui, tout à fait. Et il y a eu la TICAD donc il y a quelques jours. Donc le président africain était au Japon à l'invitation des autorités japonaises, un événement initié par le Japon qui a alternativement lieu au Japon et en Afrique. L'avant-dernière TICAD avait lieu en Tunisie, il y en a qui ont lieu en Éthiopie, un peu partout. Donc vous voyez que le Japon l'organise sur son sol et dans des pays africains qui souhaitent ou qui sont capables donc de tenir cette organisation. Et l'occasion a été donné au président du Conseil du Togo, donc de vendre le pays, hein, le Togo qui est le port, qui a proposé donc que le Togo soit à la porte d'entrée, hein, de l'Afrique, parce que c'est le seul port en eau profonde donc en Afrique de l'Ouest, et il a fait une proposition pour un nouveau partenariat Afrique-Océan Indien. Le chef de l'État rencontré, vous l'avez dit en citant la une de Togo Réveil, le premier ministre japonais, où ils sont parcourus donc à l'état de la coopération avec le Togo en vue de redynamiser cette coopération là et puis. Autre chose très importante, c'est la rencontre avec les géants de l'économie japonaise, donc il a pu déjà annoncer un partenariat avec Toyota qui aura lieu très bientôt. Et le monde économique japonais a une autre image du Togo. C'est un pays qu'ils estiment politiquement, économiquement, assez stable.
D'accord, merci. Oui, Fimé, je voudrais quand même que vous sortez plutôt alors du Togo. On va en Côte d'Ivoire. Et la manière dont les choses se passent, bien sûr, en Côte d'Ivoire avec l'annonce de la présentation au quatrième mandat alors du président Ouattara. Et également, quand on prend quelqu'un comme son opposant Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui finalement fait justement tout pour que, bien qu'il n'ait pas sur la liste électorale, mais fait de son possible pour que déjà qu'il soit sur cette liste électorale avec des manifestations organisées. On l'a suivi le samedi dernier.
Non, vous savez, tout d'abord, un coucou à Madame Essie. Je vais lui répondre. Chaque fois, ça fait des mois qu'elle me pose toujours la même question. Vous voyez combien d'enfants, mais qu'est-ce que ça, je réfléchis, je vais lui répondre. Donc, la chose est très simple. Vous savez, Gbagbo doit comprendre qu'en réalité, il n'a été qu'une parenthèse pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour les oufouettistes. La Côte d'Ivoire, c'est pour les oufouettistes, c'est-à-dire entre la Côte d'Ivoire et la France, il y a un accord. Elle a dit que c'est Oufoué qui doit diriger le pays. Et après Oufoué, il doit y avoir que des oufouettistes. Il y a eu Bédié, mais les Guéis sont des parenthésistes. Les Gbagbo, les Soro et autres, et toute la bande là, c'était juste pour assurer une transition, pour trouver un oufouettiste. Maintenant, il y a un oufouettiste, la France ne veut plus trop de lui, mais il sait qu'il a la sécurité en main, il veut toujours conserver le pouvoir. Mais après lui, il y aura encore un oufouettiste, pas avec Gbagbo. Gbagbo sait qu'il est fini, il a fini avec la Côte d'Ivoire.
Sur la question de Mme Essie, Houphouët-Boigny n'a pas eu d'enfant avec sa femme, même Marie-Thérèse, il n'a pas eu d'enfant, mais il a reconnu plusieurs enfants de ses cousines, des proches et autres. Là.
D'accord, ok, merci beaucoup Gabin Adjaro d'être passé dans cette émission Analyse politique, juriste aussi, merci d'être passé. Merci à Samy Ourosama d'être passé dans cette émission. Juriste également et aussi analyste politique, merci d'être passé. Germain Pouli, merci d'être passé dans cette émission. Merci directeur beaucoup. De publication du journal Togo Réveil, merci. Merci à Firmé Teko Agbo d'être passé dans cette émission. Merci. Vous êtes journaliste et chroniqueur politique, merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. On se retrouve la prochaine fois. Merci à Kiki Soussaki à assurer la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et vous passez un bon week-end.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.